Radio JV présente chaque lundi dès 21h, Inks et ses complices débarquent pour vous parler jeux vidéo. Dossier, interview, chronique, rétrospective, quiz. Durant une heure, tout est possible. Accrochez-vous, le Player Club est ouvert.
Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour ce 35e numéro du Player Club. On se retrouve ce soir pour une rétrospective dédiée à la saga The Witcher, écrite par le polonais Andrzej Sapkowski. Et pour ce soir, j'accueille avec moi trois invités de qualité. Ils aiment The Witcher, ils connaissent la série, ils vont vous en parler pendant une heure. Bonsoir Yinko Ime. Yinko Ime, es-tu là ?
Ah bonsoir Fox.
Ah bonsoir, comment vas-tu ? Parle bien dans le micro, on a perdu Yinko Ime.
Je suis de retour, excusez-moi, voilà. Petit souci technique.
C'est pas grave, tu vas bien ?
Très bien, et toi ?
Bien. Alors tu aimes The Witcher toi aussi ? Tu es prête pour ce soir ?
On va essayer.
D'accord. Ton Twitter, Yinko Ime, qui parle de belles choses que tu fabriques toi-même d'ailleurs. Des bijoux et de ce genre de petites choses et même des vêtements.
Des vêtements, également du costume fantasy semi-historique. On peut dire que The Witcher a inspiré certaines de mes créations.
Hein, ah, ça, on va pouvoir le retrouver sur ton Twitter et sur ton site aussi, parce que tu as une petite boutique.
Exactement.
D'accord. Avec moi, mon comparse, depuis de très très nombreuses années, c'est un puits de science sur les RPG européens et même japonais. Il a une voix douce comme le miel. Bonsoir, Matt Goji.
Bonsoir.
Comment vas-tu ?
Bah écoute, ça va bien et toi ?
Ça va. Toi, tu vas être la voix de la sagesse ce soir. Tu vas être l'homme qui a du recul et qui a fait tous les The Witcher aussi.
Ça va, tu t'y prends bien. J'ai cru que t'allais juste dire que j'étais vieux.
Non. La chauvance n'est pas une maladie, ça n'est pas l'âge. Il y a des gens très jeunes qui sont très chauves aussi. Tout va bien. Ton Twitter, @MattGoji, tu racontes des belles choses sur l'amour, l'amitié et le code.
C'est ça. Ouais. Beaucoup parfois. De bêtises sur la programmation, la musique et des bêtises en général en fait, une source intéressante.
Oui, des bêtises de qualité et c'est les auditeurs le savent pas, mais c'est grâce à toi aussi qu'on doit les plus grands moments de morceaux moisis que nous faisons avec Inks chaque année.
Oui,
vu que c'est toi l'auteur de cette guerre.
Grand pourvoyeur de morceaux moisis, un grand jeu d'échange du pire de Spotify.
C'est ça.
On va pas s'y attarder, il y a déjà eu les émissions spéciales.
Oh oui, on va pas s'attarder, non. Ça, par contre. Mais par contre, on vous invitera à les écouter, les morceaux moisis, c'est très bien. Sur Radio Kawa. Et avec nous aussi un chat de qualité, un chat velu, un chat doux. Bonsoir, The Cat.
Bonsoir.
Alors, toi aussi, tu aimes The Witcher ?
Oui, un petit peu.
Tu es un chasseleur, c'est ça ?
Oh, oui, je suis de l'école du chat.
Tu es de l'école du chat.
Et oui.
On peut te suivre sur ton Twitter, toi aussi, The Cat, @TheCat. Avec un
ouais.
Oui. Oui, pour des montages photos de qualité.
Entre
avec
autres.
Avec des Georges Belair, des Thierry Beccaro.
Entre
des choses qui font mousser les gens.
Oui.
Et donc, on est ce soir ensemble pendant une heure pour parler de la saga The Witcher. Alors, il y a des jeux, mais avant tout, il y avait des livres qui ont donné naissance à la série. Il y a aussi d'autres petites choses. Donc, pendant l'émission, vous n'hésitez surtout pas à réagir au hashtag Le Player Club. On lira vos réactions et nos invités répondront à vos questions. On se retrouve dans deux secondes.
De 21h à 22h, le Player Club.
Et on est de retour, on va pouvoir attaquer désormais cette rétrospective The Witcher. Alors, première question, ça c'est la question de base, mais tout le monde ou presque aujourd'hui connaît The Witcher, mais à la base, les jeux c'était une série de romans. J'ai cité l'auteur tout à l'heure, Andrzej Sapkowski. Ça nous raconte quoi un petit peu les livres ? Je vais commencer par Honneur aux Dames, hein, mais je vais commencer par Yinko. Il raconte quoi un petit peu ces livres ?
Donc, c'est l'histoire d'un sorceleur. Un mutant, un homme qui a subi des transformations par des mutagènes, des plantes, et qui se retrouve avec une force surhumaine, mais également il a la possibilité d'utiliser les rudiments de la magie à travers ce qu'on appelle des signes de pouvoir.
D'accord.
Qui vont pouvoir lui permettre d'utiliser les éléments, de contrôler les esprits, plus ou moins. Et donc, on le suit à travers plusieurs mésaventures où il fait des rencontres. Comment dire ?
C'est un sacré badass quand même, ce sorceleur.
C'est un badass, mais c'est un tendre au final.
D'accord, mais ça consiste en quoi ce métier de sorceleur ?
Alors, ce métier, c'est un chasseur de monstres.
D'accord.
Puisque donc il faut savoir que le monde du sorceleur a connu une conjonction des sphères hein, où plusieurs races monstres et autres joyeusetés se sont retrouvés projetés dans différents univers, dans différents mondes. Et donc c'est ce qui a, par exemple, introduit la magie dans le monde de The Witcher.
D'accord.
Et donc avec la magie est venu, sont venus les monstres, ainsi que d'autres choses, et notamment les humains.
D'accord, parce que les humains n'étaient pas originaires de ce monde-là, là, du coup.
Exactement.
Mais Geralt, lui, est humain.
Voilà, Geralt est humain.
D'accord.
Et donc, les sorceleurs, donc, à la base, c'est un petit groupuscule d'hommes, on va dire, surentraînés, qui enlèvent plus ou moins de jeunes garçons pour les former. Et,
d'accord.
À travers des écoles, donc on a plusieurs écoles, notamment l'école de la vipère, l'école du chat et l'école du loup, dont Geralt est originaire.
C'est quand même assez complexe au final, tout ça, c'est très condensé, donc on a une convergence de sphères, donc les mondes qui se fusionnent,
conjonction
de mondes qui se fusionnent avec des monstres, on a donc des sorceleurs qui sont des enfants enlevés pour devenir des chasseurs de monstres.
C'est pas tout le temps enlevé, il y a aussi ce qu'on appelle par exemple le droit de surprise.
Oui, il y a également ça, oui.
Par exemple, c'est ce qui s'est passé avec un moment avec Geralt dans une de ses aventures. Il a aidé donc quelqu'un, etc. Et puis il a dit ben voilà maintenant l'enfant que vous portez, sachant que la personne n'est pas au courant, d'où le nom droit de surprise, dans 6 ans je vais venir le prendre et puis il viendra pour devenir un sorceleur.
C'est un personnage hautement sympathique, dis-moi.
Les sorceleurs dus à leur mutation sont ne peuvent pas avoir d'enfants, ils sont stériles.
D'accord.
Donc, pour faire d'autres sorceleurs, eh ben, c'est comme ça qu'ils s'y prennent.
D'accord. Donc, ils vont se servir dans le bas peuple et dans les gens qu'ils aident en général.
Mais Geralt, lui, sa mère l'a abandonné. Donc, c'est un orphelin.
D'accord.
Voilà.
Alors, petite question. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de The Witcher. En plus, c'est en plein milieu de l'actualité vu que The Witcher 3 vient de sortir. Mais c'est sorti quand, Goji, les livres? C'est récent ou c'est une histoire qui date quand même un petit peu maintenant?
Non, les livres en fait existaient bien avant les jeux. Faut savoir que c'était une série de livres qui était très populaire justement. Donc on parlait d'Andrzej Sapkowski qui est polonais, donc très populaire en Pologne, mais globalement en Europe de l'Est, en général. D'ailleurs tout le bestiaire des Witcher, les monstres, s'appuie énormément sur tout le folklore balkan au niveau des créatures, des monstres, des légendes.
D'accord.
Donc c'était une série de livres et comme on en discutait, l'univers est déjà assez riche, assez posé. C'est en fait aujourd'hui une saga de cinq livres précédée encore par deux séries de nouvelles, plus d'ailleurs un certain nombre de nouvelles éditées dans diverses revues à diverses occasions. Donc 7 livres en tout, plus quelques autres nouvelles qui circulent. D'ailleurs, je crois que là en France, on va avoir un recueil qui sort de quelques nouvelles disparates.
Voilà, la saison des orages.
Voilà.
Parce que le premier bouquin, il date de mémoire, il date de 1985 ou 1986 en fait.
L'année plus précisément que moi en tête, mais c'est ça. Donc qui prédate, donc série comme on disait forcément en termes d'ambiance en fantasy, mais quelque chose d'assez sombre, d'assez loin des très très loin justement de l'héroïque fantasy. Si on retrouve bien sûr, si on retrouve des elfes, des nains, les situations sont très très différentes. Comme on disait, c'est un univers beaucoup plus sombre. On parlait donc des sorceleurs, qui sont finalement des chasseurs de monstres.
Le sorceleur est une espèce de chasseur de primes, mais au lieu de chasser des bandits, lui, c'est
exactement
vraiment que les monstres, quoi.
Exactement. Il voilà, chasser tout le monstre, les créatures occultes, mais font ça en étant eux-mêmes, vis-à-vis du reste des gens, en étant à moitié eux-mêmes des monstres. Comme on disait, c'est des mutants. Ils manipulent des formes de magie un peu basiques et sont complètement mis à l'écart de la société, sont régulièrement eux-mêmes de nombreuses rumeurs, histoires qui circulent. Exactement.
C'est des mutants, tout simplement. On les traite souvent de mutants.
D'accord.
Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est pendant leur formation, on leur apprend aussi à oublier leurs sentiments, à mettre de côté leurs sentiments. Donc, à l'exception de Geralt qui a fait partie d'un groupuscule sur lequel on a fait une expérience pour qu'il garde toute notion d'humanité, être plus proche de la populace, on va dire.
D'accord. Parce que les autres les Witchers sont vraiment des machines à tuer.
Voilà,
d'accord, c'est
ça,
des machines à tuer.
Oui.
D'accord, mais en plus des bouquins, il y a d'autres petits ouvrages qui ont été consacrés. Parce que de mémoire, il y a une série télé polonaise.
Oh my god, je l'ai regardée en entier, c'est une catastrophe.
C'est si catastrophique que
alors
ça
là,
en fait.
Tu as fait un effort. J'ai à peine vu des extraits et ça m'a suffi.
Alors à la base, il faut savoir que c'était un film, mais le film était tellement imbuvable qu'il a été recoupé en séquence de 40 minutes environ pour pouvoir faire des épisodes en série. Du coup, c'était un peu plus cohérent.
Ok.
Donc, ça reprend exactement les nouvelles.
Ok. Donc, les deux premiers livres.
C'est une adaptation des nouvelles.
D'accord. Parce que pour expliquer aux gens, les deux premiers livres, parce qu'il y a 7 livres au total, il y a 5 livres qui retracent une histoire filée. Et il y a 2 livres qui sont des recueils de nouvelles des aventures de Geralt.
Voilà.
Qui se passent d'ailleurs en général, enfin, qui se passent avant les livres pour des raisons sur lesquelles on reviendra après d'ailleurs. Mais...
Voilà. C'est pour ça. C'était juste pour la petite précision.
Oui, j'en ai parlé dans le désordre tout à l'heure.
Non, mais c'est pas grave. Mais il y a aussi des comics. Est-ce que vous les avez lus, les comics The Witcher, qui sont sortis depuis 2-3 ans? Il y a des comics qui sont en circulation. Circulation libre, bien sûr. The Cat, tu as jeté un œil un petit peu à ces comics The Witcher ou pas du tout?
Alors, pas les comics papier, mais dans l'édition, quand on achète Witcher 3 sur Good Old Games, qui appartient à CD Projekt, il y a un comics, c'est un petit comics interactif, plus ou moins, que j'ai lu. Et ouais, en comics, je trouve pas ça hyper passionnant, enfin, de ce que j'ai vu. Sinon, les comics papier, non, j'ai pas.
J'ai lu le premier comics papier. Franchement, ça n'apporte pas grand chose à l'univers, je trouve. Ça fait un petit peu résumé, un peu froid. Bon,
c'est un résumé un peu des nouvelles déjà.
Oui, aussi.
Il y a des morceaux des nouvelles, j'en ai lu quelques-uns.
Il
y a des morceaux des nouvelles à l'intérieur.
Oui, il faut situer ce qu'il y a différentes choses qui sont sorties sur support papier. Donc à l'époque de Witcher 2, il y avait une sorte de one-shot qui est ressorti, qui effectivement resserre l'histoire papier, l'intérêt assez discutable. L'année dernière, effectivement, chez Dark Horse, il y a eu une série de comics en 5 volumes, je crois. Qui effectivement
oui,
là est plus une sorte de qui revisite, réadapte des bouts de nouvelles effectivement. Je n'ai pas lu personnellement. Mais
moi j'en ai lu 3 et j'ai trouvé ça relativement intéressant en fait. C'est après il faut avoir lu les bouquins mais c'est plutôt intéressant et puis c'est agréable de le voir de voir un petit peu comment ils ont décidé de traiter ça chez Dark Horse. C'est pas mal on va dire.
Je parle de ces séries, il y a aussi eu des vieilles séries effectivement polonaises à l'époque, hein, dont là effectivement ma maîtrise du polonais ne m'a pas permis non plus de les lire. Mais il y avait eu, c'était peu connu en dehors de l'Europe de l'Est, mais par contre là-bas c'était un énorme succès et c'est assez amusant parce que chez nous je pense qu'on ne se trompe pas en disant que le jeu a fait connaître les ouvrages. C'est
oui.
Une situation très différente pour les développeurs, au départ.
D'accord. On va attaquer justement. Tu parlais des développeurs, Goji, mais on va parler du jeu parce que le premier The Witcher, il est sorti en octobre 2007 sur PC. Ça nous rajeunit pas déjà. Ça commence à faire quelques années.
On parlait pas des vieux.
Je le suis aussi, j'ai le droit. Non, mais le jeu sorti 23 octobre 2007, les critiques étaient bonnes à l'époque, faut quand même le dire. Il a été relativement bien perçu. On a du 7 sur 10 sur Gamekult, du 80% chez Eurogamer, du 16 sur 20 chez JV.com. C'est quand même pas mal. Et au final, ça n'a pas été non plus un succès immense. Mais vous, qu'est-ce qui vous a fait accrocher au jeu concrètement? Alors, je vais commencer par The Cat, par exemple. Qu'est-ce qui t'a fait accrocher à The Witcher 1?
Alors,
je te piège.
Exact. Alors moi, Witcher 1, je l'ai connu plus tard. Et ce jeu a excessivement mal vieilli.
Oh, c'est méchant, ça.
Disons, l'écriture est toujours bonne, les graphismes sont pas horribles, mais je trouve que le gameplay d'aujourd'hui, effectivement, bon, c'était un premier essai de CD Projekt dans le temps de TPS, etc. Mais je trouve que aujourd'hui, le gameplay est vraiment mou. Et c'est,
alors, on va en parler justement du gameplay. Voilà. On va y revenir parce que c'est quand même important de lui dédier quelques minutes à ce gameplay justement.
Ouais, ouais. Non mais il a quand même beaucoup vieilli. Donc moi j'avoue que je ne l'ai pas terminé, mais j'ai pas réussi à le gameplay. Ouais, le gameplay est trop important pour moi, vraiment.
D'accord.
Même si l'écriture
ça
est très
c'est
bien.
Un bon point, c'est un bon point d'ancrage. Du coup, je vais me tourner vers ceux qui ont eu la foi à l'époque, c'est-à-dire Yinko et Goji. Qu'est-ce qui vous a fait accrocher vous au jeu à l'époque?
Alors moi, il faut savoir que c'était seulement mon deuxième RPG.
Ah oui, quand même.
Voilà. Donc au contraire, moi, le gameplay, c'est quelque chose auquel j'ai énormément accroché, puisque n'ayant aucun automatisme comme les anciens joueurs, hein, j'ai vraiment découvert le gameplay comme ça. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intuitif, pratique, et c'est venu tout seul. J'ai commencé en facile, j'ai terminé en hard.
Ah oui.
Alors que par exemple,
c'est plus de la foi, c'est de la rage à ce niveau-là.
Ah mais là, je l'ai terminé 3 fois.
Ah oui.
Le 2,
non,
j'ai terminé 6 fois. Je voulais absolument avoir toutes les fins à chaque fois.
Parce c'est
que
horrible.
Ce qui m'accroche énormément dans The Witcher, c'est vraiment l'univers, les scénarios et le fait que chaque choix a ses conséquences, comme dans le bouquin. Et donc ça, je trouve ça vraiment génial. La moindre chose a une importance dans le jeu, plus ou moins prononcée. Mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui était fort et qui a fait que j'ai beaucoup accroché. L'univers aussi assez sombre, qui parle, qui a pas mal de problématiques, notamment tout ce qui est problèmes géopolitiques, mais également les problèmes de racisme, d'intolérance.
Et entre les humains et les non-humains.
Voilà. Et le fait que finalement, celui qu'on considère comme une machine à tuer est beaucoup plus humain que les gens qu'il défend. Ou que et finalement, les monstres ne sont pas forcément ceux qu'on croit être. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a touché.
Ouais, c'est un des thèmes récurrents du Witcher. Mm-hmm.
Ouais.
Moi, l'inverse, c'était justement assez différent, parce qu'au contraire, gros consommateur RPG depuis toujours. Moi je suis arrivé Witcher à l'époque où ils ont édité l'Enhanced Edition, puisque c'est des projets que revisite régulièrement ces jeux. Donc j'avais profité de la sortie de cette Enhanced Edition pour faire le jeu, et je me suis pris justement une énorme claque sur l'univers. Sur l'univers, l'univers de Witcher est quand même très très sombre, comme je pense que ça se ressent à travers ce qu'on en dit depuis tout à l'heure, mais c'est quelque chose où justement les personnages sont tous plus horribles que les uns que les autres. C'est le chasseur de monstres qui finalement est un des personnages est un des personnages les plus humains, et c'est un véritable paria. C'est univers très sombre. Et moi, la claque à l'époque, ça a été dans des jeux où très souvent les choix sont très manichéens. On resitue un petit peu hein, des choses faisaient avant. Bah, c'était beaucoup à l'époque RPG européen, c'était BioWare, des Knights of the Old Republic ou Knights of the Old Republic. À un moment, il faut choisir entre sauver la veuve et l'orphelin ou au contraire mettre le feu à l'orphelinat. C'était ça le niveau de choix.
C'était ça les niveaux des KOTOR de BioWare, oui.
Voilà. Qui restent des bons jeux pour tout un tas de choses. Hein. On va pas débattre de cela. Ça pourrait mériter une émission complète.
Je pense. Mais
du coup, on arrive dans l'univers de Witcher, où c'est que des niveaux de gris, on demande de faire des choix qui sont choisis entre Caribs et Scylla, on sait que dans tous les cas ça va mal tourner, les quelques fois on laisse entrevoir une possibilité de bonne résolution, on peut être certain que ça nous pète à la figure.
Même donc, une heure plus tard.
Exactement.
C'est ça qui est un peu horrible.
Même longtemps après. C'est une bonne action ne reste jamais impunie dans le jeu, c'est assez dur, et voilà, grosso modo, c'était des choix où vraiment au moment de prendre des décisions, on est paralysé, quoi. C'est vraiment mais comment je peux me décider?
Il n'y a pas de bon moment en fait. Il n'y a pas de bon choix ou de vraiment mauvais choix.
C'est pas du tout
le manichéisme qu'on peut voir dans les autres RPG.
Exactement. Les décisions sont globalement toujours très arbitraires, et il n'y a pas effectivement de je suis gentil, je suis méchant. C'est très compliqué
normal.
D'accord. C'est choisir le moindre mal, oui, comme tu dis.
Exactement. Et c'est souvent un choix complexe. Et même en essayant de tenir cette volonté, ça a souvent des conséquences qu'on n'envisage pas.
Même
essayer,
parfois
essayer
horrible.
De faire le moindre mal, voilà. En essayant de faire bien, on peut se planter. Et c'est Des fois c'est dur, le Witcher est un jeu très sombre, enfin, l'univers est très très sombre, c'est dur des fois, soyons clairs, mais c'en est palpitant. Ouais.
Faut savoir que l'univers de Witcher, dans tous les livres on en parle, etc., est pratiquement constamment en guerre. C'est-à-dire que dans le monde de The Witcher, il y a le Nord, donc le Nord avec plusieurs souverains, plusieurs pas pays.
Avec une série de royaumes disjoints.
Voilà, et il y a le Sud, Nilfgaard. Et lui essaye toujours, cet empire essaye toujours de combattre le Nord et de
prendre
possession. Voilà. Et donc l'univers est pratiquement constamment en guerre, ce qui rend la chose, c'est quasiment tout le temps famine, il y a la peste, il y a les, c'est vraiment les, bon, dans Witcher 1 il y a moins de PNJ, etc., mais on sent que c'est vraiment la misère vraiment.
Oui, c'est un monde en proie aux flammes du début à la fin, en fait.
Clairement.
C'est ça. Et c'est ça qui vous a plu à tous les trois au final. C'est cette maturité quelque part. On pourrait dire
C'est ce que je dis tout le temps aux gens. Je dis c'est mature. Quoi, c'est un RPG avec une écriture mature. Même si j'ai pas été jusqu'au bout, j'ai quand même regardé, etc., les vidéos et tout ça. Et je ne peux pas dire que l'écriture est nulle parce que c'est vraiment génial. Ça, par contre,
on a parlé du gameplay, l'écriture était fantastique, mais oui. Voilà, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est clairement plus Zola que Tolkien, quoi.
Alors, rapidement, on va faire un petit point Twitter, quand même, parce que on a des auditeurs qui crépitent d'impatience de nous dire ce qu'ils pensent. Alors, on a Mutsui qui dit que, disons, le gameplay est digne d'un Souls raté. Alors, pour ceux qui ont fait
pour revenir très rapidement en fait sur le gameplay, ce qui se passe, c'est que le système de combat, c'est système de rythme. On donne des coups d'épée et il faut recliquer au bon moment pour changer le coup d'épée qui vient derrière. Si globalement en termes de profondeur de gameplay est un peu limite, et le début, ça se libère un petit peu à la fin quand on monte en niveau, mais le début du jeu est très rigide dans le sens où il y a trois styles de combat et contre le bon ennemi, il faut utiliser le bon style, sinon on n'arrive même pas à le toucher.
On se prend des tartes phénoménales.
Exactement.
Ça apprend à réfléchir. Avant de frapper.
Oui, je suis moins d'accord. Je trouvais qu'au contraire, ça donnait une rigidité qui est pas, c'est pas difficile, mais ce n'est pas plaisant non plus.
Ouais, il y a un style de combat faible, fort, et puis pour plusieurs ennemis.
C'est fort, rapide ou de groupe. Et disons que voilà. Et bien sûr, au début, on est attaqué par un groupe d'ennemis, mais sur un style de combat de groupe, ça va pas. Il faudrait sûr les isoler un par un pour. Et disons que les combats étaient relativement.
C'était assez particulier.
C'est ce qu'on dit, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui le jeu est assez difficile à reprendre. Voilà.
Donc clairement, pour vous qui avez fait The Witcher à l'époque, aujourd'hui, vous conseillez pas forcément de le faire aux nouveaux arrivants, en fait.
Ça dépend. Moi, je l'ai repris, j'ai refait le 1 et le 2 là, avant de commencer le 3 pour pouvoir me remettre dans le bain. Le 1 m'est revenu très très vite.
Oui, après, ça dépend. Toi qui l'as déjà fait, en fait.
Oui. Mm-hmm. Je savais à quoi m'attendre, mais après, voilà, au niveau du gameplay, c'est sûr que pour ceux qui ont l'habitude de faire du RPG, c'est assez, qu'on dirait, barbatif. Par contre, pour les gens qui veulent débuter et qui veulent commencer par une bonne série, oui, moi, je leur conseille de commencer le premier.
D'accord.
Moi, je dirais aux gens d'essayer, oui. Mais faut, parce que c'est ce qu'on dit, l'écriture, l'ambiance, le mérite. Après, si ça clique pas, faut pas insister.
Voilà.
Surtout que, je sais pas si on détaillera un peu trop l'histoire, mais faut pas non plus spoiler.
Justement,
disons
j'allais
que
vous poser la question
pas...
pour cette histoire, parce que c'est important. On va parler de The Witcher 3 tout à l'heure, mais c'est important quand même de connaître un peu l'histoire de The Witcher 1. Ça reprend les livres, ça suit les livres. Comment
c'est
ça se
passe ?
C'est juste
après les livres. Juste après les livres.
Donc il est nécessaire clairement d'avoir lu les bouquins. D'avoir fait une séance de rattrapage.
Il y a quand même un gros background assez fort, surtout au niveau des personnages. Encore que le 1 n'utilise pas trop de personnages des livres, ça peut être quand même très compréhensible. Ce qu'il faut savoir, en fait, que dans le 1, je vais pas dire la fin des livres, mais dans le 1, Geralt est amnésique, donc il se souvient de rien. Donc ça
comme
aide forcément. Voilà.
Effectivement.
Ça aide un peu tous les RPG occidentaux pendant cette période-là aussi.
Puis du coup,
les KOTOR compris.
Ah bah, du coup, il va apprendre l'univers, il va apprendre qui est tout ça en même temps que le joueur. Donc à la limite, ne pas avoir lu les livres, c'est pas forcément très grave. Surtout qu'ils font souvent référence des flashbacks, etc. Donc ça va encore.
D'accord.
On peut également retrouver aussi des passages du livre dans les livres qui sont disponibles dans le jeu.
Et oui, ça raconte des histoires.
Voilà, ça raconte des histoires, des passages de nouvelles ou alors des précisions sur certains personnages.
Donc au moins, si on n'a pas lu les bouquins, au moins jeter un œil aux nouvelles peut-être pour dresser un peu le portrait de Geralt et de l'univers pour ne pas totalement être perdu et raccrocher un peu les wagons en fait.
Ouais. Et ils ont bien fait tout ça, ils ont quand même bien fait.
Soyons clairs, ce qu'on disait quand Witcher 1 est sorti. Les romans n'étaient pas trop connus en Europe de l'Est. J'ai fait le 1 sans connaître du tout les romans.
Moi, c'est
le 1 qui m'a donné envie de lire les romans.
Pareil.
Absolument pas gêné.
Ah bah, tous les trois, c'est parfait, mais vous suivez le conducteur, c'est magnifique. Mais vous êtes venus tous les trois, donc, au livre par le jeu et non pas l'inverse.
Voilà.
C'est exactement, oui.
Voilà.
Bah, disons que, comme on disait, c'était très connu en Europe de l'Est, mais pas forcément par chez nous. Donc, et ça, ils le savaient, les développeurs le savaient. Donc, ils ont fait tout pour nous introduire la série bien. Et je pense que la majorité dans l'Europe de l'Ouest a commencé les livres par le jeu, à mon avis.
Et c'est probable. Faut ça. Alors, l'édition de base, j'avoue, ne plus me souvenir, mais ayant justement là mon édition tous les yeux, faut savoir d'ailleurs que l'édition Enhanced était distribuée avec une nouvelle. Justement, avec une nouvelle qui reprend presque la cinématique d'introduction, en fait,
oui,
d'introduction
avec
du jeu.
La Strige.
Voilà, c'était
La Strige, oui, la, ça, c'est, ouais, c'est la première
de,
nouvelle.
De la Twitch.
C'est ça, c'est dans le premier recueil de nouvelles.
Voilà, qui est une nouvelle du premier recueil, qui était justement distribuée avec le jeu, vu que le jeu utilise certains éléments de l'histoire, ouais. et résume ça parfaitement avec la cinématique d'ouverture, en fait, qui fait que le joueur n'a pas de... Je ne pose pas trop de questions sur le background. Quand la situation réfère à cette nouvelle, c'est clair.
On va faire un petit point Twitter, parce que je vois que ça s'excite un petit peu. Je vois Alyosha qui dit « J'adore les Witcher, mais le gameplay des deux premiers n'est pas évolutif en hard, impossible au début, hyper easy à la fin. Alors, qui l'a fait en hard ? qui peut attester des dires d'Alyosha ?
Ben, je suis assez d'accord, en fait. J'en parlais un petit peu, comme je disais, au début, le jeu est rigide, c'est plus souple à la fin. Parce que, au fur et à mesure que le jeu progresse, justement, la contrainte des styles se lève un petit peu. On réussit à toucher des ennemis, même lorsqu'on n'est pas dans le bon style. La difficulté va en descendant. Il y a quelques pics. On peut pas dire, on peut dire que la difficulté soit très régulière. Mais il y a quelques pics, mais globalement, entre justement ces certaines contraintes qui se relâchent, le fait qu'on découvre des potions, on en a peu parlé, il y a une énorme composante alchimie, en fait, dans les jeux du Witcher.
Oui, parce que les sorceleurs utilisent des potions pour combattre, en fait.
Exactement. Voilà. Les sorceleurs sont très formés dans l'utilisation de différentes herbes, concoctent des potions justement qui contribuent à développer, à jouer sur bénéficier de leur mutation ou à leur donner certains avantages, des potions pour mieux voir la nuit, dans l'obscurité, ce genre de choses.
Des potions toxiques aux humains, si jamais.
Oui.
Il n'y a que les sorceleurs qui peuvent le prendre.
Ça tue les humains s'ils en prennent en plus.
Pas tout le temps, mais ça peut.
C'est vraiment sympathique.
Tout ça pour revenir donc au gameplay du jeu, effectivement, je suis assez d'accord que le jeu va en devenant de plus en plus facile au fur et à mesure de l'avancée dans l'aventure.
Les ennemis n'évoluent pas aussi vite que nous.
Oui, donc du coup, on commence vraiment, le jeu est une plaie de difficulté, et puis on finit un peu godlike, parce qu'on est bien entraîné, qu'on a fait une build un peu catchy, et ça passe en fait.
C'est pareil pour le 2, c'est exactement la même chose. Dans le 2, vous pouvez...
C'est bon à savoir, on en parlera tout à l'heure.
C'est possible.
Non, tout à l'heure.
D'accord.
The 4. The Witcher 2, c'est dans la deuxième partie.
D'accord.
Tu es excité, tu es coquin.
Oui.
On est toujours sur The Witcher 1, mais on en parlait en préparant l'émission, Goji, mais il y a eu un portage, The Witcher, qui a été prévu à l'époque, qui s'appelait Rise of the White Wolf.
Tentative de portage, donc, c'est à moitié portage, à moitié remake, c'était un peu particulier. Donc,
sur PS3 et 360 en plus.
Voilà, donc, c'était le premier Witcher qui est sorti que sur PC. Mm-hmm. En rentrant dans l'historique, en fait, il avait été fait il y a Je vais pas rentrer dans le détail, ça sortirait du jeu, mais ce sont de bons amis de BioWare, en fait, qui travaillaient sur le moteur Aurora des Neverwinter Nights, bref, moteur qui était un petit peu en fin de vie, un petit peu dur, donc pour le porter, ils ont songé à faire appel à un autre studio, des Français, en fait, des Lyonnais, les Lyonnais de Widescreen Games, pour réaliser un portage sur 360 et PS3. Portage, je dis moitié portage, moitié remake, c'est ce qu'ils prévoyaient, même eux, je pense, avaient un peu conscience des limites de leur gameplay, prévoyaient d'en profiter pour améliorer un petit peu ça. Portage qui, globalement, a juste capoté, en fait.
Mais il a capoté, apparemment, de ce que j'ai pu lire, il a capoté quelques mois avant la sortie, en fait, ce qu'il était prévu pour fin 2009. Et il a été abandonné, et l'annonce de son abandon a été donnée en avril 2009. Donc c'est vraiment... il aurait dû sortir juste quelques mois après, quand même. Donc ils avaient pas mal avancé sur le développement, ce qui est quand même assez dur.
Bah, justement, au terme de ce qui ressort un petit peu de cette histoire, c'est clairement pas assez pour que le projet soit même viable, sans parler de retard, mais voilà.
Oui, d'accord. Je pense qu'on a... Vous avez quelque chose encore à dire sur The Witcher, messieurs dames?
Moi, j'aurais peut-être un petit truc.
Je t'en prie.
Disons que dans le premier, ce qui est vraiment intéressant dans l'univers, c'est qu'on retrouve tout un folklore polonais, qui est assez intéressant, notamment le fait que Geralt ait les cheveux blancs. Souvent, dans le folklore, on retrouve des personnages avec ces cheveux-là. On retrouve pas mal aussi de vieilles femmes au sein tombant et édentées.
C'est vrai que c'est assez chronique.
Oui, c'est assez chronique. On sent cette ambiance dans le jeu. Mais ça reste quand même humble, c'est pas du grandiloquent.
Ça reste maîtrisé, en somme.
Voilà, ça reste très maîtrisé. Donc ça peut être aussi une approche indirecte, si jamais vous voulez vous intéresser au folklore polonais, je pense que ça peut être une première étape, déjà, pour voir si ça vous convient. Et il faut savoir aussi que le jeu, il est peut-être sombre, mais il y a quand même une bonne dose d'humour. Il y a des moments où on peut vraiment se taper des barres, parce qu'il faut savoir que Geralt peut être parfois cynique, et se retrouve avec des amis femmes qui se retrouvent dans des situations assez cocasses, donc on aura toujours une pointe d'humour dans un monde de brutes.
Ouais, quitte à carrément se foutre de la gueule très ouvertement des autres œuvres ou des autres jeux RPG. Hein. Je me souviens juste Gérald qui se...
Rapidement, parce qu'on va passer la pause musicale.
Non, ouais, juste Gérald qui se fout totalement de la gueule, par exemple, du Seigneur des Anneaux, qui disait « Ouais, puis après, vous voulez quoi? Que j'aille me foncer dans un volcan pieds nus, etc. »
Alors ça, enfin, c'est dans le 2.
Voilà, c'est dans le 2.
Du coup, voilà. Messieurs dames, on va se retrouver dans 3 minutes pour la deuxième partie de ce Player Club dédié à The Witcher avec Inko, Matt Goji et The Cat. On se retrouve alors dans 3 minutes, et comme pause musicale, je vous ai sorti Dragonborn USB 64 pour juste avoir un petit peu de dragon avec les The Witcher. A de suite!
de 21h à 22h, le Player Club.
Et nous sommes de retour pour cette deuxième partie du 35e Player Club dédié ce soir à The Witcher et sa série. Toujours avec moi Yinko.
Hello.
Matt Goji.
Bonsoir.
Et The Cat.
Bonjour là.
Alors on a fait la première partie, on a parlé des livres, on a parlé très rapidement de la série télé, on a parlé des comics, on a parlé du premier The Witcher. Maintenant on va attaquer la grosse partie de l'émission, parce qu'on va parler de The Witcher 2 et un petit peu de The Witcher 3. Alors, avant de commencer, on va faire un petit point Twitter, parce que je vois que ça s'agite entre quelques personnes. Je vois Monsieur Gla qui s'agite, qui parle du proto, qui parle de l'importance de la série. Gouldo qui en fait, ils sont en train de montrer des horreurs, parce que il y a quand même pas mal de sexualité dans The Witcher, donc on va en parler dans The Witcher 2.
Oh,
parce
c'est
que
très coquin.
Il est arrivé en 2011. The Witcher 2, donc quand même 4 ans après le premier, ce qui est pas un temps très très long non plus pour la plupart des RPG, quand on voit les Elder Scrolls, qui mettent 6 ans, ou les Fallout, hein, n'est-ce pas? On arrive sur ce deuxième épisode, donc en 2011, ça nous raconte quoi un peu les histoires de Geralt maintenant, il s'est passé un peu de temps depuis le premier? Alors je vais me retourner ce coup-ci vers Goji. On arrive dans quoi dans le 2, parce qu'on termine le premier. Tu nous parlais d'un univers sombre avec nos comparses, mais le 2 ça donne quoi? C'est toujours le bordel ou ça s'est un peu calmé?
Oh là non, l'univers, c'est l'univers du Witcher, sorceleur ou non, comme on en parlait tout à l'heure, c'est toujours le bordel. Donc le 2 démarre dans la foulée du 1, en fait. Le 1 finit mais vraiment la cinématique de fin, littéralement, sur un événement en particulier. Et cela va démarrer une petite traque pour en tout cas des interrogations sur des personnages qui apparaissent à la fin du 1 pour Geralt. Donc le Witcher 2 le fait démarrer en fait en compagnie d'un roi dont il vient de sauver la vie.
Mmh. Et pas qu'un roi, j'ai envie de dire.
Pas qu'un roi.
C'est pas qu'un roi.
Il est littéralement d'ouverture, le voit en compagnie d'une Triss Merigold très peu vêtue. On parlait effectivement, on n'est pas revenu dessus dans le cadre du 1, alors que c'était
un point déjà important, du jeu, quand même.
Oui, donc Geralt est un coureur de jupons.
Un vétéré.
Un vétéré, au point d'ailleurs que dans le 1, en fait, une sorte de mini-jeu qui consistait à collectionner des cartes des femmes avec qui on avait réussi à coucher.
Ah quand même.
C'était d'une élégance rare. La séquence d'ouverture du 2 est donc sur Triss Merigold à moitié nue qui était au lit avec Geralt.
Ah non, complètement nue.
Totalement nue.
Mes excuses.
Mais qui est Triss Merigold? Alors ça a l'air d'être une bonne amie de notre sorceleur préféré. Hein, ils ont l'air très amis, même très.
Oui, le mot-clé est probablement bonne.
Alors Triss Merigold, c'est une magicienne qu'on a souvent entendu parler dans les livres, qui était aussi dans le 1 d'ailleurs.
C'est un personnage important.
C'est un personnage important
des bouquins et du
plutôt
premier,
plutôt important. Oui, elle accompagne souvent Geralt, allons dire. Voilà. Et faut savoir que Geralt justement est très friand des magiciennes. Il raffole, il a vraiment beaucoup de mal à ne pas succomber au charme des magiciennes. C'est pour ça que d'ailleurs ses grands amours c'était souvent des magiciennes, tout simplement. Son plus grand amour, Yennefer, est une grande magicienne. Voilà.
Et donc du coup en fait il a des grands amours mais il a aussi un cœur d'artichaut et le pantalon en feu de ce que je peux comprendre quand même.
Oui.
C'est quand même terrible. On en vient presque à l'envier de temps en temps. Pas tout le temps mais quand même. Alors un petit peu on va.
Après je voudrais préciser quelque chose. Il faut savoir que quand même dans cet univers, enfin les gens ne sont pas forcément liés à vie et sexuellement. C'est un monde très libéré, tout le monde couche avec tout le monde.
Les mœurs ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ils n'ont pas du tout la même culture, donc du coup c'est plus acceptable.
Exactement, il y a même un village, je ne me rappelle plus lequel. Non, c'est pas la Vallée aux Fleurs ou autre chose. Où une fois par an, pendant une semaine, ce sont des orgies dans les bois.
Je crois de mémoire, c'est la Vallée aux Fleurs quand ils tirent le vin en fait.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. J'ai lu les livres, hein, vous inquiétez pas. C'était un passage assez intéressant d'ailleurs. Et du coup, maintenant qu'on a dressé un petit peu le portrait rapidement de Geralt le coureur, il se passe quoi dans ce Witcher 2 et autant au niveau de l'histoire qu'au niveau de gameplay, Geralt il fait quoi dans ce numéro 2? Ça suit une suite logique. Eric Goji disait que il partait en quête et qu'il sauvait un roi, mais il sauve un roi de quoi?
Bah,
Sans justement, on va pas trop rentrer dans le détail si certaines personnes veulent faire le 1, mais il se retrouve, comme je disais, il sauve un roi d'une tentative d'assassinat.
D'accord.
Il se retrouve un peu justement embarqué dans une série de conflits justement entre les rois. On disait donc que l'univers du Witcher, il y a le Nord qui est une série de royaumes fragmentés et le Sud. Et donc Geralt va se retrouver à aller traquer un petit peu ces assassins. Et bien sûr, se retrouver au passage complètement embarqué dans une espèce de guerre civile. On n'a pas mentionné cet aspect aussi qui est clé dans le Witcher, mais il y a une énorme opposition entre les humains et toutes les autres créatures.
D'accord, donc il y a quoi ? Il y a les monstres, il y a des elfes.
Non, il y a les elfes et voilà. Les nains, en gros.
Sans parler des monstres, il y a effectivement donc des elfes et des nains également dans l'univers de Witcher. Qui sont clairement une ségrégation violente. Ils sont parqués dans des ghettos, vraiment dans ville, littéralement, ils sont parqués dans des ghettos. C'est quelque chose de très violent. Et il y a justement une bande de... et c'est là justement la finesse de l'histoire, c'est une bande de résistance / terroriste, puisque finalement c'est les gagnants qui écrivent l'histoire.
Les Scoyatels.
Voilà, les Scoyatels, les écureuils. C'est l'écureuil en elfe. Et donc Geralt se retrouve mêlé. Il est déjà dans le 1, mais de manière encore bien plus marquée dans le 2, dans le conflit entre des forces d'armée et les humains de manière générale et cette résistance Scoyatels.
Il a le don pour se mettre dans les embrouilles. c'est violent pour aller dans les emmerdes, en fait.
Ça lui a volé.
C'est plus pratique pour écrire des romans que quelqu'un qui n'arrive à rien. Mais effectivement, lui cumule particulièrement.
Ça lui a valu beaucoup, beaucoup de gros problèmes.
Tu t'en prie.
Ouais. Dans le 2, en fait, dans le 1, en fait, c'était un peu plus personnel, la quête, parce que c'était des gens qui sont attaqués, donc, à l'école des sorceleurs. Dans le 2, ça s'appelle Assassin's of Kings.
Donc tueur de roi en français, hein.
Voilà, ou régicide. C'est quelqu'un. C'est un jeu très finalement hyper géopolitique, parce que on va être tout le temps. Soit on accompagne des rois, soit on va se mettre contre eux, etc. Et c'est pas vraiment centré sur personnage de Geralt, mais sur les décisions qu'il va prendre pour aider tel ou tel camp, etc. D'ailleurs, dans faire le premier tiers du jeu, je vais pas dire laquelle, mais on peut prendre une décision qui va changer du tout au tout le reste du jeu. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que vu que le jeu est pas très très long, ça donne une bonne rejouabilité. Mais on va pouvoir choisir des camps très très distincts, et ça va changer tout ce qu'on va faire par la suite.
Et le jeu est découpé en 3 chapitres, plus un prologue, et effectivement, un choix assez important fin du chapitre 1, dès que le chapitre 2 va changer du tout au tout.
Ah oui, ça c'est intéressant.
De lieu, de quête, d'absolument tout.
Ça donne vraiment une grosse replay value du coup.
Oui. Une énorme replay value, et c'est quelque chose en termes de... C'est quelque chose d'assez extraordinaire en fait, en termes de se dire que comme travail, de s'imaginer un moment que beaucoup de gens ne verront jamais qu'une partie du jeu et
tout, parce qu'ils vont pas le refaire.
Jamais vu. Exactement.
Ouais. Déjà, statistiquement, les gens ont du mal à finir leur jeu. Alors, en plus, un jeu qui propose 2 trames scénaristiques qui se distinguent après le premier tiers, déjà, d'une, c'est rare. De 2, c'est encore plus rarement vu par les joueurs au final.
C'est un pari un peu fou, mais ça fait partie justement de clairement la volonté justement au moment de donner de vraies conséquences, de vraies conséquences au choix du joueur dans le.
Voilà. Et puis, vous savez, ce choix peut être fait, il y a un temps imparti. Je crois qu'il y a genre 5 ou 10 secondes pour faire le choix, un truc hyper capital, et on nous dit, bah voilà, tu choisis maintenant. Moi, on m'a dit justement, ouais, j'étais un peu déçu parce que Witcher 2, il est pas assez long et tout, mais je lui dis, mais tu l'as fait avec les deux manières de faire. Ah bah non, tout ça. Je dis, mais ça change vraiment du tout au tout. Effectivement, il y a des gens, c'est un peu triste, ils verront jamais la seconde partie, enfin la partie différente. Et en plus, cette partie va influencer, je sais pas trop à quelle échelle, parce que j'ai pas trop fait Witcher 3.
Alors, ça, je peux te le dire, ça influence déjà le 3.
Oui, ça je sais que ça influence le 3.
Donc ça influence la trame du 3.
Ouais, ouais, ouais.
Ça influence tout le 2 aussi. Tout comme aussi certaines choses du 1 influencent le 2.
D'accord.
À moindre échelle. Mais à chaque fois tout est influencé.
clairement, il y a moyen de récupérer les données de sa partie précédente.
Ah oui, oui,
voilà,
oui,
c'est
oui.
ça. Oui. On l'a pas mentionné, donc je me permets de le souligner.
On en parlera sans doute plus. Si
voilà, on récupère sa sauvegarde.
Exactement.
Soit apporter la sauvegarde ou reposer des questions. Pour simuler les choix si on appuie sur sauvegarde sous la main.
Ça c'est important, c'est quelque chose qui n'est pas qui a été normalement fait pour beaucoup par les Mass Effect par exemple, notamment Mass Effect 2, Mass Effect 3 et Mass Effect 1, enfin Mass Effect 1, 2 et 3. Là The Witcher quand il commence en 2007 et directement il nous met cette possibilité là aussi. Donc on écrit vraiment son histoire.
Les liens étaient
du premier au dernier, on écrit
plus faible entre le 1 et le 2. C'était assez anecdotique, l'impact
oui,
des choix du 1 dans le 2.
Oui, ouais. C'est vraiment
mais c'était là.
Voilà.
D'accord.
C'était plus rare. Pardon, je pense qu'on peut vite fait parler du gameplay du 2.
J'allais y venir justement, ce gameplay, parce que on a parlé du 1 qui était un peu, on va dire, rude et particulier. Ouais. Ça donne quoi le 2? Il y a plus de construction apparemment, c'est plus fluide.
Le 2, ils ont pris le 1, ils ont enlevé le système de combat, ils en ont fait un nouveau tout simplement.
D'accord.
Ça se rapporte beaucoup plus au action RPG où vous cliquez ou alors vous tapez à la manette un bouton. Ça va faire, ça va vraiment être en temps réel les combats plutôt que des simples clics dans le tempo. Là, ça va vraiment être des placements en temps réel, des coups en temps réel.
C'est du combat dynamique.
C'est très dynamique et d'ailleurs les animations sont pas trop mal parce que Geralt est supposé être un grand maître d'armes, ce qui n'est pas trop visible dans le 1, mais dans le 2 il fait des pirouettes, il fait des sauts périlleux pratiquement, il se roule par terre pour attaquer à distance. C'est assez incroyable ce qu'ils ont fait. Moi je trouve que les combats du 2 c'est ce qui manquait réellement au 1. Alors ils avaient peut-être pas trop les moyens ni les idées de faire ça, mais je trouve que le 2 est quand même pas mal, surtout que l'utilisation des signes est beaucoup plus dynamique, on peut choisir le signe à la volée et l'utiliser tout de suite. Ils ont vraiment fait un gros effort au niveau du 2.
Ingo, comment tu l'as reçu toi ce nouveau gameplay de The Witcher 2?
Alors moi au début je l'ai détesté.
La puriste parle.
J'étais habituée au 1 et voilà, quand on n'a pas fait beaucoup de RPG avant, voilà qu'on découvre ça, et moi je suis vachement sensible au rythme. Et ça me paraissait logique aussi qu'un sorceleur fasse ça en rythme, puisque ce sont des pas, ce sont des parades. Donc voilà, ça vient aussi avec le rythme. Donc pour moi c'était plus facile, et là du coup c'était du temps réel, c'était un peu plus dur. Le fait aussi que il y avait un gros souci, c'est automatiquement tu frappes la personne la plus proche de toi. Donc du coup il suffisait que tu fasses valdinguer quelqu'un pour que l'autre personne qui était derrière toi soit plus proche. Et finalement, tu te retrouves à taper la deuxième.
Alors, il y avait un système de lock quand même.
Oui, quand même. Mais
j'ai jamais utilisé.
Moi non plus.
C'était pas très
voilà,
pratique.
C'est
vrai qu'il était beaucoup plus exigeant. Parce que comme je disais en fait tout à l'heure, tu peux carrément mourir quasiment dans le tutoriel, tu peux mourir en fait.
Exactement. Oui.
Parce qu'il est dur.
Au début,
il est dur parce qu'il manque vraiment des compétences à Geralt que tu acquiers. Alors à la fin, c'est plus facile. Mais au début, c'est très exigeant. Et d'ailleurs, dans le tutoriel, dans le Enhanced Edition, donc voilà, l'édition améliorée qu'ils ont sorti après,
en même temps que la sortie console.
Voilà, tu faisais un combat à la fin du tutoriel et il te disait, ben voilà, vu votre performance, vous pourrez jouer en facile ou en normal ou en dur.
Ça, c'est frustrant, ça. C'est un peu insultant aussi.
Un petit peu, oui.
Et toi, Goji, comment tu l'as pris, toi?
Effectivement, au début, c'est dur. On arrive, on s'en prend effectivement, on s'en prend plein la poire.
C'est ce que dit Alyosha justement sur Twitter, ou hashtag le player club, grand moment de frustration, le premier boss de The Witcher 2.
C'est même pas les premiers boss, en fait. Dans le prologue, on arrive au tout début, on a une armée de la piétaille qui arrive, et des personnes qui arrivent au corps à corps, qu'on commence à frapper, et là on se fait décimer par des archers qui nous plombent tranquillement de l'autre bout de la map.
Pendant qu'il y a un mec avec une clé mort près d'un puits qui vous asmate aussi, j'ai connu.
Exactement.
exactement.
Mais globalement, par contre, c'est effectivement, j'en parlais un peu pour le 1, dans le 2, on retrouve un petit peu Swiss, il y a des pics de difficulté qui sont assez particuliers, je pense que tous ceux qui ont joué se souviendront de grands moments de frustration, les premières fois qu'ils se sont battus contre l'espèce de boss de fin du premier chapitre.
Ça doit être quelque chose. Alyosha en parle.
Un grand moment de frustration, en tout cas personnel. Mais voilà, au bout du compte, passer effectivement une certaine prise en main qui est pas évidente, pas tant pour des raisons de rigidité comme dans le 1, mais de difficulté simplement.
Ouais.
C'est quelque chose de beaucoup plus plaisant. Comme on disait déjà par rapport au 1, c'est quelque chose d'un peu plus libre avec le système de combat. Ils ont aussi changé le système de compétences.
Oui, parce qu'il y a un gros arbre, on peut construire sa build en fait.
Voilà.
Et
ça, construit
son personnage.
C'est énorme.
Non. Et effectivement, dans Switcher 2, on peut se spécialiser plutôt sur le maniement de l'épée, plutôt sur l'utilisation des signes magiques ou justement sur l'alchimie qui décuplera l'effet des potions.
Toi, tu avais fait une spell chimie de mémoire parce qu'on en a beaucoup parlé.
J'ai travaillé sur différentes choses, mais effectivement pour les personnes qui veulent essayer, c'est souvent un peu plus facile de commencer certaines compétences d'épée, une build d'épée alchimie. C'était rigolo, mais Tout est viable, justement. On a vraiment,
c'est ça l'important, c'est que tout est viable dans le jeu.
Tout est viable, certaines choses sont plus faciles que d'autres, c'est sûr. Mmh. Mais il n'y a pas non plus de mauvais choix. On aura un peu plus de mal, mais on ne peut pas planter non plus sa création de personnage complètement.
Mais voilà. La question que je me pose, c'est avec justement ces modifications, est-ce que vous avez eu l'impression de vous approprier et d'avoir votre Geralt à vous? Même si vous suivez l'histoire du personnage, est-ce que voilà, vous avez fait votre build, toi t'as un build d'alchimie combat à l'épée, The Cat peut-être tu as fait magie épée ou magie alchimie, oui. Voilà, Inko aussi tu as dû faire une build particulière qui te convenait.
C'est magie
à toi.
Épée.
Voilà, ouais. Magie épée aussi. Ouais. Vous avez donc votre Geralt.
Oui.
C'est
votre Geralt,
moi je trouve.
Vas-y, je parle plus tout à l'heure, hein, vas-y.
Bah, moi, en fait, comme je disais, vu que Witcher 2 est beaucoup moins intime au niveau de Geralt, j'ai pas eu l'impression vraiment, je vais prendre l'extrême, tu vois, dans Skyrim, c'est vraiment toi, absolument toi. Geralt, c'est quand même un sorceleur qui a des capacités prédéfinies, etc. J'ai pas eu trop l'impression, mais ça m'a pas dérangé, par contre, je dis pas que c'est un défaut. Mais pour moi, j'ai pas eu trop l'impression de faire mon Geralt à moi, etc. Pas plus
il y avait
que ça,
quand même
en fait.
Une certaine, ça t'a donné une certaine connivence peut-être avec le personnage aussi.
Ouais, voilà, parce que il a un style de combat qui après je le voyais quand je mettais les points dans les attributs, je le voyais, ça me faisait plaisir. Mais pour moi c'était lui Geralt, c'était lui et pas moi.
Voilà, d'accord. Mais c'est tu ça, avais créé ton Geralt. Il agissait tel que tu le voulais aussi.
Oui, bon.
c'est effectivement assez particulier par rapport à beaucoup de RPG classiques, c'est que on ne crée pas son personnage, on joue Geralt, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui nous est imposé en fait.
Comme dans les RPG japonais, par exemple le JRPG où on t'impose des personnages.
Exactement, et au final, même on parlait des compétences qui n'influent finalement que dans les combats ou dans vraiment certaines choses annexes, certaines choses annexes pour la chimie,
par exemple.
Non. Justement, pas tellement d'impact sur les discussions, c'est le combat, et au niveau des, les deux sont un petit peu séparés, c'est pas un RPG où le fait de ne avoir pas choisi certaines compétences va trop fermer d'options de dialogue, c'est peu d'impact comme ça, globalement. D'accord. c'est quelque chose qui est, la construction de personnage est axée combat, assez axé sur le combat, et effectivement, au niveau du déroulement de l'histoire, c'est beaucoup plus sur les choix du joueur.
D'accord. Les choix de dialogue et les choix pris, justement, comme tu le disais, comme vous le disiez tout à l'heure, à la fin du premier chapitre et dans les différents moments où il y a vraiment des choix cornéliens à prendre.
Exactement.
D'accord. Alors, je vais devoir avancer un petit peu parce qu'il nous reste encore 5 minutes d'antenne avant de devoir la rendre à Kokobé, Yaki, Alvin et aux amis de PLS. Mais on va arriver sur The Witcher 3 parce que là je sens Yinko bouillir depuis tout à l'heure. Elle a envie d'en parler. Elle a pas dormi depuis une semaine. Yinko, The Cat, The Witcher, vous y avez touché. Goji, tu vas nous expliquer pourquoi tu veux attendre un petit peu. Alors, ça donne quoi, The Witcher 3?
Alors, pour l'instant, j'ai pas beaucoup avancé, mais tout ce que j'ai vu pour l'instant, je suis vraiment à fond. Pour moi, c'est un jeu de rôle grandeur nature. C'est vraiment vivant. C'est limite cinématique au niveau de la qualité des ambiances, de la musique. On se croirait oui vraiment dans du cinéma, mais vraiment quelque chose de vivant. Il y a l'Algérie à cause de plein de petites situations à la con. Par exemple, tu passes dans un village et tu croises un gars qui vient de marcher dans une bouse, qui gueule en se décrotant. Sinon, il y a, enfin, il y a plein de, c'est plein de petites scènes de la vie de tous les jours qui sont là.
C'est vraiment vivant, en fait.
Vraiment,
c'est
très vivant. Très vivant. Tu sens le climat, la météo qui est là, la végétation qui bouge. Enfin, tout est vraiment très très vivant.
Ça ramène à
c'est
la question.
C'est vraiment immersif.
Voilà, ça ramène exactement la question que je voulais vous poser, mais vous m'avez déjà donné la réponse. On ne perd pas en qualité narrative tout en étant plus libre. En fait.
Non.
C'est l'inverse. C'est
voilà.
Tout à fait l'inverse. On sent que c'est des projects. On sent que c'est des projects et c'est l'aboutissement, en fait. D'ailleurs, c'est le dernier volet, ils l'ont dit eux-mêmes. C'est l'aboutissement de leur boulot et ils ont pris tout ce qui est bien dans le 2. Ils en ont fait un univers ouvert et très très cohérent. Et en plus, avec un système de combat amélioré, avec absolument tout améliorer, le système de potions qui était un peu embêtant dans le 2, là c'est plus dynamique, et etc. Franchement, c'est une pure merveille, vraiment.
À part l'interface, qui est une catastrophe.
Alors, à la souris, ça va.
À la souris, ça va. C'est moche, hein. C'est très moche.
Moi, j'ai galéré dans le 2. Hein. J'ai vraiment galéré avec l'interface du 2. Vraiment.
Vous jouez tous les deux à la souris clavier ou vous jouez à la manette?
Non, clavier. Souris clavier.
Comme les vrais PC Master Race à fond. Parce que moi j'ai aucune honte de dire que je joue à The Witcher 2 parce que j'ai pas commencé le 3, il faut que je finisse le 2. J'y joue au pad et j'y prends beaucoup de plaisir à jouer au pad,
mais
en fait.
Mais il est très bien au pad, y a pas de souci.
Sauf pour les menus en fait. Mais bon, voilà. C'est ça. Les menus au pad c'est une horreur, mais la souris c'est pas mieux. Juste une question, ça c'est important, et c'est toi The Cat qui l'a soulevé en préparant l'émission. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire pour le coup de lire les livres ou de faire vraiment au moins The Witcher 2 avant d'attaquer The Witcher 3? Parce qu'il y a certaines choses qu'on trouve pas dans The Witcher 2 et qui sont dans le 3 apparemment, de ce que j'ai lu.
Il vaut mieux faire le 2, il vaut mieux vraiment commencer par le 2, pas forcément le 1. Les livres, c'est important effectivement, mais même je pense que encore une fois, ils ont réussi à faire en sorte que, ils ont fait des petits flashbacks et tout, ils ont réussi à en faire en sorte que même sans avoir touché ni au 1, ni au 2, ni au livre, on comprend à peu près. On manque pas mal de choses, de background, etc., mais on comprend à peu près quand même. C'est très bien fait encore une fois.
D'accord.
C'était puis, déjà un petit peu le cas dans le 2. Pour le 3, je vais voir. J'ai pas encore eu le temps d'attaquer dans la semaine. Mais effectivement, ce qui est difficile, c'est qu'il introduit des personnages qui ont 5 romans de background. Donc, c'est tout. Les développeurs sont conscients que tout le monde n'a pas lu les livres. Forcément, les personnes qui ont lu comprendront beaucoup mieux certaines situations qui sont faites pour être appréhendées, même avec le minimum.
D'accord. Ah, messieurs, dames, on arrive quasiment au terme de cette émission. Il nous reste une minute. Alors rapidement, vraiment très très rapidement, CD Projekt a annoncé des DLC gratuits qu'il a donné.
Oui.
Mais ils sont arrivés il y a pas longtemps avec un Season Pass que personne n'attendait. Est-ce que ça vous gêne?
Est-ce que ça
vous embête un petit peu?
Oui et non.
À la limite, si c'est des très bons DLC, et surtout si c'est du boulot qui est fait après la sortie du jeu, et pas des trucs comme dans Destiny, où c'était déjà sur la galette, et puis tu achètes un petit peu le truc et ça te débloque les DLC, non, là ça me dérangerait. Mais c'est des trucs, je pense...
Ça te dérange pas du coup.
Voilà.
Goji, ton avis? Tu attends les Enhanced Edition maintenant pour y jouer?
Non, on va pas obligé d'attendre les Enhanced Edition. Bon, globalement, c'est ce qu'on dit. Il y a eu un peu de réaction parce que CD Projekt s'est beaucoup targué justement de ne pas céder au modèle DLC pour finalement revenir dessus. Bon, vis-à-vis de tout le foin qu'ils en faisaient, c'est effectivement un petit revirement de situation que certains ont à travers de la gorge. Après, moi je rejoins The Cat, si les DLC sont de qualité, correspondent effectivement en termes de qualité, de prix, j'ai pas de soucis sur le fond avec ça.
D'accord. Inko, pas
c'est
de soucis de ton côté?
Pas de soucis non plus, enfin sachant ce qu'ils avaient fait par exemple pour la Enhanced Edition du premier, ils ont fait deux petites histoires qui étaient inspirées des nouvelles. C'était autant de qualité que le jeu en lui-même, donc je me fais pas du tout de soucis pour le contenu supplémentaire qu'ils vont faire pour le pass.
D'accord.
Faudra juste peut-être attendre un petit peu que le prix baisse.
Oui,
puis,
voilà.
Mais oui, je pense que ça sera vraiment de qualité et ça va peut-être apporter un petit plus aussi. Je crois qu'il y a une vingtaine d'heures en plus.
On est en train de manger le temps de nos amis de PLS qui trépignent. Alors je vais devoir vous interrompre, messieurs dames.
Y a pas de souci.
Et je vais vous remercier. Merci Inko d'être venu avec nous.
Merci à
ton
toi.
Ton Twitter @InkoIme. Merci Goji, mon compagnon, de m'avoir accompagné ce soir et de m'avoir sauvé la mise pour remplacement de notre ami Zelfir qui malheureusement n'est pas là et qu'on embrasse.
Pas de
Twitter Matt Goji. Ah oui, et Monsieur The Cat, mon chat, je te remercie, mon chaton, d'être venu.
Merci à vous, un grand plaisir.
Je vous rappelle que l'émission, vous la retrouverez la semaine prochaine sur Synops Live, et puis tout à l'heure en direct, en téléchargement et en podcast sur radiojv.com. L'émission est produite par Radio JV. On se retrouve lundi prochain en direct, évidemment, et puis 24 heures sur 24 en streaming, téléchargement et en podcast sur Radio JV, radiojv.com. Et maintenant, je vais me faire engueuler par Yaki qui doit prendre l'antenne de Passe le Stick. Bonsoir, Yaki.
Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Ah, je t'ai bouffé deux minutes, je suis vilain, je suis mauvais.
C'est notre marque de fabrique, ça, t'es pas censé le faire, hein.
Eh ouais, mais je suis connu pour être le plus bavard de toute l'équipe.
Ah.
Alors, vous allez parler de quoi ce soir?
On va parler de grosse fatigue, parce que c'est le PLS des vrais, ceux qui restent, ceux qui sont encore vivants et qu'on fait 3 jours non-stop.
La galette saucisse, voilà. Et la dose.
C'est exactement ça. Et le scandale de l'augmentation de 50 centimes du prix de la galette saucisse.
Ça, c'est un scandale. Et surtout,
c'est une honte.
Ah. Surtout la pénurie. Au bout de 2 jours, il avait plus.
C'est vrai.
Mais c'est la faute de DJ Pai, il a tout bouffé, le
avec
salon.
Daigo, mais grave.
Et Monsieur Karaté, évidemment.
Ah, mais Karaté, il a mis tout dans son bonnet pour le ramener. Pour le manger à l'antenne.
C'est comme ça. Il le revend, tu sais, il le revend.
Dans des il les revend à Trunks qui était en manque de galettes saucisses.
C'est ça. Eh bien merci Fox.
Bonne émission messieurs.
Eh bien écoute, bonne soirée, merci.
Bonne soirée, des bisous.
Salut.
Ciao ciao.
De 21h à 22h, le Player Club.